Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous, et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, pour évoquer avec elle les gros titres à la une pour le journal à paraître ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence cette une de La Marseillaise avec le dossier qui est encore consacré une fois de plus à la bataille des retraites avec une double dimension, la puissance du mouvement social et la grève féministe du 8 mars, journée internationale du droit des femmes.
Oui, tout à fait. Donc, on a bien vu donc mardi 7 mars, la sixième grande journée de mobilisation et de grève qui est montée d'un cran parmi les syndicats et chez les travailleurs,
oui,
avec énormément de manifestations, notamment dans l'Hérault,
oui,
où il y a eu des milliers de personnes, une démobilisation qu'on n'avait pas vue depuis 1995.
Alors, selon les syndicats ou selon la police?
Oui, oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est indéniable que c'est un succès.
Oui.
C'est un succès qui vient se heurter quand même à l'intransigeance et au déni d'écoute du gouvernement.
Oui.
Mais notre dossier, on revient évidemment sur cette grande bataille des retraites. Et évidemment, ça se double de la grève féministe, puisque les syndicats et les associations, les organisations de jeunesse ont fait le lien entre cette bataille des retraites et la défense des droits des femmes.
Oui.
Voilà.
Le deuxième sujet sera consacré sur l'enjeu de l'égalité femmes-hommes, où la Marseillaise est allée rencontrer Nadia Bakkeri, conseillère régionale déléguée à l'égalité et à la lutte contre les violences.
Oui, tout à fait. Donc c'est une conseillère régionale et c'est une action du conseil régional que nous mettons en relief, puisque Nadia Bakkeri fait le point dans nos colonnes sur un dispositif qui a été mis en place en 2017 par la région Occitanie et qui est unique en France et qui s'intitule Génération Égalité.
Oui.
Et son objectif est de sensibiliser les jeunes lycéens, qu'ils soient en lycée généraux, professionnels ou agricoles, ceux aussi qui sont dans les écoles dites de la deuxième chance.
Oui.
Donc c'est de la sensibilisation à l'égalité des sexes pour déconstruire les stéréotypes de genre, aussi des informations sur la mixité des filières et le respect et la lutte contre les violences.
Mmh. La Marseillaise revient aussi sur le vrai choix de société opéré par la municipalité de Montpellier, notamment par son maire Michaël Delafosse, qui a décidé d'interdire la reconnaissance faciale.
Oui, alors on sait qu'avec l'avancée de la technologie ce qu'on appelle l'intelligence artificielle,
oui,
désormais, il y a des systèmes de surveillance qui, se développent, et notamment, ce n'est plus l'humain qui est derrière la caméra quelque part, mais c'est un algorithme et c'est l'intelligence artificielle. Or, c'est vraiment lourd de danger.
Mmh.
Et donc, on revient sur cette décision de la municipalité de Montpellier qui a pu un peu passer sous les radars, mais qui a été prise en début d'année.
Oui.
Et donc, il y a eu quasiment l'unanimité, puisqu'il y a eu simplement 5 ou 6 votes contre au conseil municipal.
Mmh.
Et on revient sur les raisons de ce choix important,
oui,
de notre point de vue, de la mairie de Montpellier.
Le coup de cœur de la Marseillaise, c'est l'ouverture à Montpellier du Café Joyeux, le 14e du nom. Alors, ce sont des cafés-restaurants qui emploient essentiellement, pardon, de l'ordre de 70%. Attends, je ne comprends pas ce que je dis là, Françoise.
Oui, vas-y, on reprend.
Ouais. Attends. Le coup de cœur de la Marseillaise, c'est l'ouverture à Montpellier du Café Joyeux, le 14e du nom.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un café-restaurant. Alors, c'est le 14e qui s'ouvre en France.
Oui.
Et c'est le premier en Occitanie. Alors, la particularité de ce café-restaurant qui se situe place Les Sacs et qui a ouvert à la fin du mois de février, donc c'est tout nouveau, c'est qu'il il se donne pour objectif d'employer avec des emplois, on va dire, sérieux, pérennes, pas du sous-emploi, des personnes qui sont en situation de handicap mental ou cognitif. Donc, il y a à peu près 70% des personnes qui travaillent au sein de ce café qui sont atteintes de, qui sont en situation de handicap.
Oui.
Et l'idée, elle a germé à Rennes en 2017. Et l'objectif, bien évidemment, pour l'année qui vient, l'année 2023 et les prochaines années, c'est de multiplier les initiatives, puisque aujourd'hui, il y a quand même un chiffre qui est quand même assez impressionnant. Il y a seulement 0,5% des personnes en situation de handicap, on va dire mental ou cognitif, qui sont dans un emploi, on va dire, entre guillemets, classique.
Oui.
Donc, il y a un véritable, il y a tout un, vraiment, ça aussi, c'est une question de société pour que tout le monde ait accès à une vie, sociale, et notamment le travail fait partie de la vie sociale pour tout un chacun.
Absolument. Côté culture, la Marseillaise présente la 13e édition du festival de Fil en Aiguille qui va ouvrir ses portes le 15 mars à Montpellier.
Oui, alors ça c'est une très belle initiative, hein, c'est de Fil en Aiguille. Alors ça se passe à partir du 15 mars à la Maison pour tous Mélina Mercouri à Montpellier. Et donc il va y avoir des expositions, il va y avoir des défilés, des ateliers, des visites. Et l'objectif vraiment du festival de Fil en Aiguille, c'est de mettre en lumière la nouvelle génération des créateurs de mode.
D'accord.
Donc voilà, avec vraiment là aussi la mode participe pleinement à la vie sociale et elle témoigne aussi des évolutions sociétales. Mmh. Et donc ce festival, c'est de montrer aussi la vitalité de ce secteur, qui est un secteur complet, hein, où on peut apprendre des choses fortement intéressantes, utiliser les matériaux, et il va y avoir notamment des visites du Théâtre des 13 Vents, qui a un atelier de couture, un atelier pour les costumes.
D'accord. Allez, Françoise, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres, chers auditeurs, et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence, Françoise, cette une de la Marseillaise, donc avec, comme on le disait en introduction, le dossier qui est consacré une fois de plus à la bataille des retraites.
Oui, tout à fait. Alors, pour rappeler, ça fait quand même depuis le début de l'année et la fin janvier que le mouvement social s'est mis en ordre de bataille pour refuser et faire reculer le président Macron et son gouvernement sur son projet de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
Oui.
On a vu donc le 7 mars, cette sixième journée d'action, à l'initiative de l'intersyndicale. Mmh. Il faut souligner encore une fois que c'est une intersyndicale historique.
Oui.
Et donc, partout en France et singulièrement aussi, évidemment, dans le département de l'Hérault et à Montpellier, et dans d'autres communes du département, il y a eu énormément d'arrêts de travail. Il y a eu aussi énormément de manifestations. La particularité de cette sixième journée d'action, c'est qu'elle d'ores et déjà va être complétée parce que on est face, le mouvement social est face à un gouvernement et un président de la République qui reste droit dans ses bottes.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Qui ne veut absolument pas revenir sur son projet. Et en plus, cette semaine, ça n'aurait échappé à personne, que c'est la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Et que donc le lien est fait entre la bataille pour les retraites, une retraite digne et complète pour tous, et la conquête des droits des femmes.
Absolument.
Alors, dans notre dossier, nous sommes allés une fois de plus à la rencontre de celles et ceux qui ont manifesté, et notamment des femmes. Et on a recueilli, par exemple, là, je vais citer le témoignage de Marjorie.
Oui.
Marjorie, elle est postière. Et donc, elle nous explique que les femmes à la poste sont particulièrement mobilisées.
Mmh.
Et elle nous dit que pour elle, évidemment, ce projet, c'est vraiment la double peine. Elle nous explique qu'à la poste, les métiers ne sont pas faciles, ils sont mal payés.
Oui.
Et on ne se voit pas finir à 64 ans dans la souffrance.
Mmh.
Nous sommes déjà crevés. Donc ce n'est pas possible, à 64 ans, on ne sera plus en emploi et on sera épuisé. Alors Marjorie, elle est assez exemplaire dans ses propos du sentiment de profonde injustice qui est vécu par les personnes qui vont être touchées, donc,
oui.
Et notamment ceux qui ont des métiers mal payés ou des carrières hachées, par cette réforme. Marjorie nous explique aussi qu'elle est prête à se mobiliser à nouveau pour faire reculer le gouvernement.
Mmh.
Elle nous explique qu'elle manifeste aussi le 8 mars, mais qu'elle veut aller aussi et tenir jusqu'au bout. Elle a une phrase qui nous semble très juste, hein. On nous change les règles en cours de route, je préfère donc perdre des jours maintenant.
Oui.
Voilà, ça montre bien la détermination de ces manifestants et ces manifestantes.
Mmh.
Et nous sommes aussi allés interroger un maire. Alors nous sommes allés dans le Gard, mais c'est la commune de Vauvert.
Oui.
Et donc le maire, c'est Jean Denat. Alors c'est un maire socialiste. Et lui, il a fermé la mairie mardi 7 mars. Et on lui a demandé pourquoi. Et donc il nous explique qu'évidemment c'est un signe de soutien à l'unité syndicale, mais c'est un sujet, bien évidemment, la retraite qui concerne les personnels des services publics de proximité et des mairies.
Oui.
Voilà. Donc, la mairie étant fermée, c'est une journée salariée. Ça veut dire que les agents municipaux n'ont pas perdu de salaire. Et ça, c'est quelque chose
qui participe
de la solidarité. Alors, il nous explique aussi Jean Denat. Et lui aussi, il nous semble exemplaire de du ressenti et de l'analyse de beaucoup d'élus locaux.
Oui.
Pourquoi il est opposé à cette réforme? Alors il nous dit d'abord elle n'est pas nécessaire, il s'appuie là-dessus sur les études du comité d'orientation des retraites,
hein, oui.
Et qu'elle est particulièrement injuste parce qu'elle va toucher des gens qui sont déjà en situation précaire, qui ont déjà été touchés par des inégalités tout au long de leur vie. Et donc, il nous parle du personnel de sa mairie, hein,
mmh.
qui sont mobilisés parce qu'ils trouvent injuste de faire 2 ans de plus. Et ils pensent bien sûr aux personnes seniors qui sont très peu employées dans les entreprises. Et le taux d'emploi des seniors en France, il est de 35,5%. Il faut toujours le rappeler.
Oui.
Donc il nous dit que si on conjugue le décalage à 64 ans de départ à la retraite, la dernière loi sur l'assurance chômage, on s'aperçoit que les gens qui ont pu faire une carrière tout à fait honorable dans une entreprise et quitter l'emploi avant l'âge de la retraite, ils vont se retrouver soit au chômage, soit à percevoir des maigres minima sociaux comme le RSA.
Oui.
Et Jean Denat le dit, c'est proprement scandaleux dans un pays qui se targue d'être la 7e puissance mondiale. Et ce qui est intéressant aussi dans ses propos, on lui demande comment il réagit par rapport à la volonté du gouvernement de passer en force, hein,
mmh.
puisqu'il y a quand même un monde du travail qui est vent debout. Alors, il parle du fond de la réforme qui est vécue comme profondément injuste, mais il parle aussi de la forme, parce qu'il dit qu'il y a un sentiment de mépris, d'humiliation. Aujourd'hui, il y a le ressentiment d'un président lointain
oui.
qui part en Afrique et qui ne se sent pas concerné,
mmh.
c'est insupportable et ça accentue la colère et la mobilisation.
Mais d'ailleurs, je crois que les syndicats veulent rencontrer Emmanuel Macron maintenant.
Alors, les syndicats, ça aussi, on va en rendre compte, bien évidemment, dans la Marseillaise de ce vendredi. Ils ont, dès le 7 mars au soir, fait un communiqué commun, l'intersyndical, donc les 8 syndicats représentatifs de tous les salariés du public et du privé en France.
Oui.
Et on demande, vu au regard de la situation de la mobilisation, ils demandent à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités, de les recevoir en urgence pour qu'ils finissent par abandonner ce projet qu'il qualifie de brutal et injuste. Mmh. On connaît la réponse aujourd'hui de l'Élysée, qui est de dire que la porte, soi-disant, a toujours été ouverte. Et bien évidemment, l'intersyndicale a déjà mis sur la table deux nouvelles dates, le samedi 11 mars,
oui.
Ce qui permet aussi d'élargir les cortèges, hein, à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de faire grève.
Oui.
Et puis, un autre jour la semaine prochaine, certainement le 15 mars,
oui.
Puisqu'on sait que au niveau du Parlement, après le Sénat qui est en train d'examiner le projet de loi et qui est majoritairement à droite,
oui.
Et il vient de se passer quelque chose de très grave au Sénat, c'est que pour la première fois, il a tenté, et ils n'ont pas pour l'instant réussi, d'utiliser un article qui permet de mettre fin au débat et d'adopter l'article 7, le fameux article 7 donc, qui concerne le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans.
Oui.
Ils ont voulu tourner court et les sénateurs de gauche, qui sont certes minoritaires, mais les trois groupes de gauche, à savoir écologistes, communistes et socialistes, ont été vent debout, ont fait en sorte, ont quitté l'hémicycle et le président du Sénat, Gérard Larcher, a été obligé de suspendre cette nuit les débats qui devaient reprendre le mercredi 8 mars dans l'après-midi.
Mmh.
Donc il y a un véritable bras de fer, y compris au Sénat, un endroit que l'on dit feutré, où il y a la bataille des retraites qui se déploie aussi.
Mmh. Ça sera donc une affaire à suivre dans la Marseillaise, j'imagine.
Complètement, oui.
La Marseillaise revient aussi sur l'enjeu de l'égalité femmes-hommes. Vous êtes allée à la rencontre de Nadia Bakiri, conseillère régionale déléguée à l'égalité et à la lutte contre les violences.
Oui, tout à fait, parce que bien évidemment, pour rendre compte de la journée du 8 mars, au-delà des manifestations que nous, comme on dit dans notre jargon, que nous couvrons, hein, et dont nous rendons compte notamment en images, hein, et nous avons aussi, on s'est rapproché de Nadia Bakiri, qui est élue au Conseil régional d'Occitanie, pour qu'elle nous fasse le point sur un dispositif qui est unique en France. C'est d'ailleurs étonnant qu'il soit unique parce qu'il est bien efficace,
oui.
Qui s'appelle Génération Égalité. Et Égalité. En fait, ce dispositif, il est mis en place depuis 2017 et il propose des séances de sensibilisation à destination des lycéens.
D'accord.
Et bien évidemment, le 8 mars, la région a marqué le coup en faisant une grande journée spéciale en présence de centaines de jeunes.
Mmh.
Mais tout au long de l'année et depuis 6 ans, il y a régulièrement ces ateliers qui se tiennent dans les lycées généraux, agricoles ou professionnels, dans les écoles de la deuxième chance qui sont installées dans la région Occitanie.
Oui.
Et ça a permis de sensibiliser près de 182 000 jeunes.
C'est pas rien.
Et pour un total de plus de 7 000 séances qui ont été proposées. Alors ça se fait en partenariat évidemment avec le rectorat, le planning familial, il y a aussi avec les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, très important, des mutuelles étudiantes.
Mmh.
Et évidemment, ce que nous explique Nadia Bakiri, c'est de continuer à améliorer le dispositif, et la région souhaite aussi aller plus loin. C'est-à-dire qu'elle voudrait que soit créé au sein des établissements scolaires ce qu'elle nomme des cellules de signalement,
oui.
Pour protéger les jeunes filles et les jeunes garçons qui seraient victimes de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles ou bien racistes.
D'accord.
Donc, bien évidemment, ça relève de l'éducation nationale, mais la collectivité, elle se veut force de proposition.
Mmh.
Alors, ce qui est intéressant dans ces ateliers, c'est qu'il y a plusieurs volets qui sont abordés. Il y a évidemment la sensibilisation à l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Il y a aussi la déconstruction de certains stéréotypes de genre. Hein.
Mm-hmm.
Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, la promotion de la mixité des filières et des métiers.
Oui.
Et bien évidemment, tout le volet de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et évidemment l'apprentissage du respect mutuel. Parce que c'est d'autant plus important que des récentes études montrent que notamment chez les jeunes hommes, il y a la persistance de stéréotypes très forts. Ils ne trouvent pas anormal que les femmes continuent à s'occuper de la maison, à faire la vaisselle ou à faire la lessive, ça leur pose pas de problème.
En 2023.
Voilà. Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment un travail à faire et on peut souligner, c'est pour ça qu'on a mis un peu en exergue dans le journal ce dispositif Génération Égalité, parce qu'il nous semble c'est un travail de fond qui est mené par la région, dont on parle, on parle peu, mais en tout cas qui agit en profondeur et surtout tout au long de l'année, avec, comme je disais, un point d'orgue qui a été donc ce 8 mars 2023. Avec là, c'était intéressant parce que les jeunes, là, il y a eu pas moins de 200 jeunes qui ont pu assister à une pièce de théâtre qui portait sur qui mettait en scène le témoignage d'une agression sexuelle subie pendant un festival et ses répercussions. Donc on est vraiment sur des choses très actuelles. Et puis ensuite, il y a eu un procès fictif qui a été organisé sur la thématique des violences sexistes et sexuelles conjugales et familiales. Il y a eu en présence d'une dizaine d'experts qui ont pu apporter leur analyse et leurs propositions. Et ce procès fictif a été retransmis en direct dans les 13 maisons de ma région et au lycée Alphonse Daudet de Nîmes et dans les deux hôtels de région. Donc il y a vraiment quelque chose de très, de très volontariste de la part de cette collectivité dont ce n'est pas la compétence première ou obligatoire. Mais en tout cas, c'était important de le souligner. C'est pour ça qu'on y a consacré un article assez important.
La Marseillaise revient aussi sur le vrai choix de société opéré par la municipalité de Montpellier qui a décidé d'interdire la reconnaissance faciale, choix qui n'a pas été fait par le CIO et la ville de Paris et l'État pour les JO 2024, je crois.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça qui... alors, c'est peut-être une décision qui est un peu passée sous les radars, si je puis dire, ou qui n'a pas été sous l'œil des caméras, mais le conseil municipal de Montpellier a fait vraiment un choix, comme vous l'avez dit, un choix de société, c'est-à-dire pour protéger les libertés individuelles, c'est-à-dire que le refus, vraiment, de se doter de dispositifs de surveillance de l'espace public via l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. On a un conseiller municipal de la majorité de Michael Delafosse qui est Manu Reynaud, qui est donc un élu écologiste, qui est adjoint au maire, et qui nous explique que une intelligence artificielle va repérer des comportements, des attitudes, des façons d'être en temps réel. Bref, elle va identifier une personne en étant orientée par des biais. Et il explique qu'un humain, en revanche, il va s'en tenir à la loi qui a été décidée par des assemblées élues démocratiquement.
Oui.
Alors, il dit que ces choix d'apparence technologique sont en fait des choix de société.
Absolument.
Et donc, la ville de Montpellier, il a dit, les élus ont fait le choix de la protection des libertés individuelles. Et c'est important parce qu'il y a des villes comme la ville de Nice, la ville de Nice qui a mis déjà des caméras
partout
depuis très longtemps. elle s'est vraiment, elle a adopté quand même une technologie qui sert notamment à museler l'expression démocratique dans un pays comme la Chine.
Oui.
Donc c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que il y a des risques de dérive très très concrètes, hein, et c'est pour ça on le souligne dans le journal. Par exemple, c'est Manu Reynaud qui nous cite cet exemple vérifié, hein. Aux Pays-Bas, bon, on ne peut pas soupçonner les Pays-Bas de ne pas être une démocratie, hein. Mmh. Il y a près de 30 000 citoyens contribuables qui se sont vus accusés de fraude fiscale par un algorithme discriminatoire.
D'accord.
Mais en fait, il avait tort dans 94% des cas.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est bon, ça, c'est voilà, c'est assez significatif. Des dérives qui sont complètement inhérentes au système lui-même. Hein. Mmh. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les élus du conseil municipal, qui est de majorité de gauche, on va dire, diverse, hein, il y a eu dans l'opposition 6 élus de droite, mmh, qui n'ont pas voté, qui se sont abstenus.
D'accord.
Voilà. Donc... voilà, parce qu'ils expliquent qu'ils ne sont pas contre, enfin, ils ne veulent pas qu'il y ait une interdiction complète. Ils justifient, oui, ça comme ça. Mais on montre quand même que c'est très très peu, très très peu d'élus, et qu'il y a eu comme un consensus quand même de, on va dire, de l'Assemblée du Conseil municipal de Montpellier, oui, pour dire non à cette... à cette reconnaissance faciale qui, malheureusement, galope et gagne du terrain dans le monde entier.
Mmh. Oui, et puis, il y a d'autres questions soulevées avec la reconnaissance faciale. Est-ce que ces reconnaissances seront stockées oui, dans le temps? Enfin, voilà, ça soulève beaucoup de questions. Et puis, on peut même revenir à la réforme des retraites. On demande aux Français de travailler plus longtemps, mais on va, mmh, retirer du travail en mettant des robots à la place.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis, d'ailleurs, on a le... On a en exergue de notre article une citation de Stephen Hawking, qui était donc ce grand physicien, qui disait que créer une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire humaine. Malheureusement, ce pourrait être le dernier, mmh, à moins que nous découvrions comment éviter les risques.
Eh oui.
Voilà, je crois qu'il résumait, ouais, bien
absolument,
le dit. Voilà.
Allez, plus joyeux, c'est le nom du café, oui, qui va ouvrir ses portes à Montpellier, le 14e, oui, du nom, le Café Joyeux. Expliquez-nous ce que c'est, Françoise.
Alors, le Café Joyeux, alors déjà, on va dire où il se trouve. Il vient d'ouvrir là, à la fin du mois de février, donc, mm-hmm, sur la place Les Sacs à Montpellier.
Oui.
On le reconnaît très bien, avec une façade jaune citron ou soleil, comme on veut. Et donc, vraiment, il affiche la couleur, c'est-à-dire ici, on vient avec le sourire. Donc, c'est la particularité du Café Joyeux, mmh, le 14e du nom,
oui,
c'est que c'est un café-restaurant, donc on peut aller boire un verre, se prendre un repas. Mmh. C'est qu'il emploie essentiellement des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Mmh. À peu près 70% des salariés de ces Cafés Joyeux sont des personnes en situation de handicap. Donc, il s'est né en fait à Rennes assez récemment,
oui,
en 2017. Et en fait, c'est le fondateur des Cafés Joyeux, qui s'appelle Yann Bucaille, a été sensibilisé par un jeune homme autiste âgé de 20 ans.
Oui.
Et donc, il a décidé avec sa compagne d'ouvrir le premier Café Joyeux en 2017 à Rennes. Et donc, avec un objectif bien précis, c'était l'inclusion par le travail. Mmh. Et surtout, en même temps, c'est important, un changement de regard et d'attitude,
oui,
porté sur les personnes porteuses de handicap. Il y a un chiffre assez terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, seulement 0,5% des personnes qui sont atteintes de handicap mental travaillent en milieu dit ordinaire.
Alors qu'on parle d'inclusion beaucoup en France.
Oui, alors que bon, on voit bien à l'école, machin, que c'est un parcours du combattant et que l'accès aux droits est complètement bafoué. Donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé, je veux dire, important de faire connaître l'existence et l'ouverture de ce café joyeux, parce qu'en y allant, c'est comme ça aussi qu'on soutient les personnes en situation de handicap au travail et qu'on apprend aussi, puisqu'on ne nous l'a pas appris suffisamment quand on était plus jeune, à casser tous les préjugés que l'on peut avoir sur les personnes qui porteuses de handicap, puisqu'on apprend tous des uns des autres et que les personnes porteuses de handicap sont riches aussi de connaissances et de savoir-faire.
Absolument.
Donc voilà, et c'est ça que dit en fait le Café Joyeux, et c'est ça que nous avons voulu aussi mettre en exergue, et notamment ça a été souligné et reconnu, puisque c'est un organisme de l'économie sociale et solidaire, qui est à l'origine de ces cafés joyeux, qui a reçu un prix de l'engagement sociétal en 2022 et le prix de l'entrepreneur de l'année.
D'accord.
Alors il en existe en France, donc dans 14 villes désormais, puisque Montpellier y est. En Europe, on en trouve à Lisbonne ou à Bruxelles. Hein. Et l'objectif donc de l'entreprise, de cette entreprise, est d'en ouvrir d'autres dans le courant de l'année 2023 et à venir, parce que franchement, 14, c'est bien, mais c'est pas assez. Et voilà. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, alors que ça devrait être, on peut parler des cafés, mais ça peut être dans d'autres secteurs aussi de l'économie ou d'activité, où tout un chacun, tous les citoyens, quelle que soit leur situation, leur origine, qu'ils soient malades, en bonne santé, ou ils puissent trouver et faire leur place.
Absolument. Et puis, il paraît que dans ces cafés joyeux, on y mange bien, voire très bien en plus.
Eh bien, il faudra qu'on l'essaye.
On ira ensemble, Françoise.
Voilà, exactement.
Allez, côté culture, la Marseillaise présente la 13e édition du festival de Fil en Aiguille, qui ouvrira ses portes le 15 mars prochain à Montpellier.
Oui, alors c'est un beau festival. Alors ça se déroule donc à partir, donc comme vous l'avez dit, le 15 mars jusqu'au 7 avril à Montpellier.
Oui.
Et c'est accueilli à la Maison pour tous Mélina Mercouri. Alors le but de ce festival de Fil en Aiguille, hein, qui a un nom formidable je trouve, hein, c'est de mettre en lumière, de promouvoir la nouvelle génération des talents de la création de mode.
Oui.
Alors ça leur permet, ce festival, d'avoir des moyens concrets pour présenter leur création, hein, parce que c'est vraiment un art où il faut montrer ce qu'on fait.
Oui.
Voilà, il faut pouvoir avoir les conditions aussi de le faire vivre. On le fait vivre sur des personnes notamment qui défilent dans les défilés. Donc il y a 3 semaines donc à Montpellier qui sont dédiées à 100% à la mode, comme on le dit, sous toutes ses coutures.
Hein. Oui.
Donc on a des ateliers, des visites. Par exemple, le Théâtre des 13 vents qui ouvre ses portes, et ses coulisses et celles de son atelier de costume. Hein.
Mm-hmm.
On donne toutes les dates. Il faut s'inscrire un peu en amont, mais c'est le 22 mars, donc on a un peu le temps pour s'inscrire. Hein. C'est gratuit. Il y a aussi un atelier de tissage avec une artiste exposante, Marilyn Sol.
Oui.
Et puis une quinzaine d'expositions dont l'entrée est complètement libre, et il y a aussi 2 défilés. Alors on aura un défilé le 31 mars, ça sera le 11e concours des créateurs de mode.
Oui.
Donc là c'est 3 minutes sur scène pour convaincre le public et le jury.
D'accord.
Et le thème c'est « Fais pas genre ».« Fais pas genre ». Et le second, ça va être un show original qui est présenté par des passionnés de mode, des amateurs et des professionnels. Et ça sera le 1er avril. On donne tous les lieux et les dates. Enfin, le lieu, c'est donc la Maison pour tous Mélina Mercouri. Et puis, une date aussi qui peut intéresser beaucoup, beaucoup de personnes, c'est le 2 avril, c'est un dimanche. Tout l'après-midi, il y a ce qu'on appelle les puces des couturières et des créateurs. Alors là, c'est pour vraiment les passionnés de couture, de tricot, de mode. Il y a 40 stands qui seront bondés de trésors.
D'accord.
Mercerie, boutons, tissus, dentelles, machines à coudre. Tout ça sera à disposition. Et on va faire la boucle avec la Journée internationale des droits des femmes.
Oui.
Tout ce qui est couture, tricotage, c'était quelque chose qu'on mettait, évidemment. C'est plus genré que ça, tumeur, si je puis dire. Cela dit, maintenant, il y a des, on va dire, il y a une nouvelle génération de féministes qui s'emparent de ces outils-là pour tricoter contre, on va dire, pour tricoter contre le patriarcat et porter haut les droits des femmes et leur lutte.
Et c'est du 15 mars prochain à Montpellier jusqu'au 7 avril.
Voilà, il y aura une grande journée d'inauguration, une soirée plutôt, samedi 18 mars à partir de 19h, donc à la Maison pour tous, Mélina Mercouri, ouverte à tout le public. Et là, il y aura la présentation complète de toutes les expos avec la participation des artistes.
Et bien voilà, tout est dit, Françoise.
Oui.
Quant à nous, on se retrouve évidemment à partir de la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour évoquer avec vous les titres apparaître à la une de la Marseillaise. Merci Françoise.
Oui, ça sera avec grand plaisir. Merci Bruno.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Verna. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.